Bonjour, frères et sœurs. Nous avons chanté ce matin des chants en l'honneur de Dieu, en l'honneur de Jésus aussi, qu'on a lu dans Apocalypse aussi, qui est l'agneau de Dieu. Donc, qui est Jésus? On pourrait donner plusieurs titres, plusieurs termes. Qui est Jésus? Mais selon l'Évangile de Jean, c'est clair, il est le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu le Fils. Et une chose qui apparaît clairement dans l'Évangile de Jean, c'est que Dieu, le Dieu unique, est en trois personnes. Trois personnes égales en dignité, en divinité, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, qui nous convainc de ça. Et on peut le croire, même si ça dépasse notre compréhension humaine, comment un seul Dieu peut être en trois personnes. Et on n'adore pas trois dieux, on adore un seul Dieu, mais on le croit par la foi, et on peut s'approprier cette vérité-là. Mais Jean présente aussi clairement qui est Jésus par rapport à nous, les croyants. C'est qu'il est le Sauveur, l'agneau de Dieu. Il est le Seigneur aussi, celui que l'on doit suivre. Mais encore plus spécifiquement, quelle est sa fonction? Quel rôle il joue? Mais elle est triple. J'en parle parce qu'on va le voir ce matin. Elle est triple parce que Jésus, il est l'accomplissement des trois offices qu'on voyait dans l'Ancien Testament, les trois offices principaux, les trois fonctions principales dans la direction du peuple de Dieu. Il est le prophète, il est le sacrificateur et il est le roi. Il n'y en a pas besoin de trois personnes pour accomplir ça. En Jésus, on a tout. Il est le prophète qui représente Dieu devant nous, devant le peuple, pour nous révéler qui il est, sa volonté. Il est le sacrificateur qui nous représente devant Dieu. Il nous a obtenu sa grâce. Il est le roi qui dirige, qui mène ses troupes au combat, qui bâtit son Église. À ce point-ci, dans le récit de Jean, on est rendu peu de temps avant que Jésus soit arrêté, et il vient de donner ses dernières paroles à ses disciples, des messages pleins d'encouragement, des exhortations aussi, des prophéties. Et il a terminé, mais il se trouve encore en présence de ses disciples, mais là, il lève les yeux vers le ciel et il prie son Père. Une prière qui est extraordinaire, et une prière qui a été citée et utilisée dans les cultes depuis 2000 ans, depuis que les premiers chrétiens ont commencé à s'assembler en Église. Une prière qui nourrit notre espérance. C'est le summum de la révélation de Dieu qui est synthétisé dans cette prière-là. Et on peut y discerner, entre autres, les trois fonctions qu'occupe Jésus. Prophète, sacrificateur et roi. C'est parfois appelé la prière sacerdotale que Jésus élève à Dieu en tant que souverain sacrificateur, mais je crois qu'il le fait aussi en tant que prophète et en tant que roi. Les éléments le montrent dans sa prière. Mais lisons-la en Jean 17, l'Évangile de Jean, chapitre 17. L'Évangile de Jean, chapitre 17, et on commence au début, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et il dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçus. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je te prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et eux, ils sont dans le monde. Et moi, je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ceux que tu m'as donnés, je les ai préservés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde, et moi je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'avais donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ai fait connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi, je sois en eux. Amen. Il y a beaucoup d'éléments dans cette prière, mais je crois qu'on peut la voir une division naturelle en trois parties. D'abord, au verset 1 à 5, Jésus prie pour lui-même. Et à partir du verset 6, il prie pour ses disciples qui sont avec lui et tous ceux de son époque pendant son séjour sur la terre qui ont cru en lui, pour ses disciples, ses contemporains croyants. Et à partir du verset 20, il prie pour les futurs croyants, pour nous, dans une prière qui nous concerne. Donc, il commence par prier pour lui-même. Le premier sujet de prière est lui-même, parce qu'il arrive à la conclusion de sa mission. Il arrive à un moment historique là, que les prophètes ont annoncé. Et Jésus l'exprime comme ça, il dit « L'heure est venue ». À plusieurs reprises dans l'Évangile de Jean, il a mentionné que ce n'était pas encore son heure. Mais là, l'heure est arrivée. L'heure est venue. C'est l'heure de sa mort. L'heure de la souffrance, de la douleur, mais l'heure aussi de sa résurrection et de son élévation. Donc, c'est l'heure de sa glorification. L'heure où la gloire lui sera donnée. Et même, on peut dire que la mort de Jésus en soi est glorieuse. Même si c'est une horrible souffrance, injuste, la croix est ignoble, et ça montre toute la laideur du monde, toute la méchanceté qui a fondu sur Jésus. Mais le fait que Jésus a passé cette épreuve-là avec succès, qu'il a obéi jusqu'à la fin, c'est tout à son honneur, ça le glorifie. Il a passé l'épreuve de la souffrance, de la mort, la crucifixion. Il a obéi jusqu'au bout, sans péché. Ni le monde, ni le diable n'a pu le forcer à pécher. Et même la mort n'a pas été un obstacle à ce qu'il obéisse à Dieu. Donc, le fait que Jésus a persévéré jusqu'à la mort est glorieux. C'est un sujet de gloire pour lui. La mort est glorieuse aussi parce qu'il a l'honneur en cela, en mourant sur cette croix. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas juste pour donner un bon exemple. Il a l'honneur d'être l'instrument de Dieu pour le salut de l'humanité, le salut des croyants. Il est l'instrument du salut de Dieu pour le monde. C'est par lui que l'expiation est faite. C'est par lui que la création, qui normalement devrait être vouée à la destruction totale, comme on a vu une illustration lors du déluge dans l'Ancien Testament, mais grâce à ce sacrifice-là, le Créateur dit, « Je ne détruis pas toute ma création, je la réchappe. » Et ça passe par l'œuvre de Jésus. Donc, c'est tout un honneur que le Fils que Jésus de Nazareth a reçu. Sa mort est glorieuse aussi parce qu'il va ressusciter. Donc, sa mort sera l'occasion de montrer qu'il vainc la mort. Il va ressusciter. En vainquant la mort, il sera élevé dans la gloire de Dieu. Donc, c'est l'heure de sa glorification qui arrive. Jésus le sait parce que c'est dans le plan de Dieu qui s'exécute à la perfection, avec précision, à l'instant même, à la seconde même où Dieu l'a décidé. Donc, Jésus sait que l'heure est arrivée et que le plan de Dieu va s'accomplir avec précision, comme prévu. Mais j'aimerais souligner ici un fait, c'est qu'il ne tombe pas dans le fatalisme. La Bible n'est jamais fataliste. Le fatalisme, c'est de croire que tout est écrit d'avance et qu'on ne peut rien changer. Donc, mangeons et buvons parce qu'on ne peut rien changer à quoi ce qui arrive. Jésus ne tombe jamais là-dedans. Il ne raisonne pas par une logique humaine que si c'est vrai que tout est planifié d'avance et qu'on ne peut rien y changer, bien, à quoi ça sert qu'on fasse... À quoi nos choix personnels peuvent être... On peut en être tenu rigueur. Et ça sert parfois d'excuse à certains hommes ou femmes pour pécher ou pour être nonchalants. Parce qu'ils vont se dire, de toute façon, Dieu a décidé, il y a un plan pour ma vie, peu importe ce qui arrive. Même si je pêche, ça fait partie de son plan. Mais Jésus ne raisonne jamais comme ça, il ne nous invite pas à penser comme ça non plus. Au contraire, puisqu'il sait que le plan s'accomplit, que son heure est arrivée, ça l'encourage à prier pour cela. Il sait que l'heure de sa glorification est arrivée, et c'est exactement ce qu'il demande à Dieu. « Glorifie-moi. » Donc, il prie selon la volonté de Dieu. Ça nourrit sa prière de savoir qu'il accomplit le plan de Dieu. Et c'est très souvent le cas dans la Bible. Ben, vous la lisez souvent, mais en la relisant, portez attention, justement, les endroits où ce qu'il est souligné la souveraineté de Dieu, que Dieu a un plan qui s'accomplit, ça ne décourage pas les croyants de prier. Au contraire, ça encourage à prier, ça motive à prier et à demander à Dieu ce qu'il a déjà décidé de nous donner. Parce que Dieu a un plan qu'il accomplit, mais il veut l'accomplir en réponse à notre prière. Il désire être en relation avec nous. Donc, ça ne devrait pas nous décourager. Maintenant, ici, qu'est-ce que Jésus demande? Il demande d'être glorifié. Si vous et moi, on demandait d'être glorifié, peut-être qu'on aurait un soupçon d'orgueil là-dedans. Jésus est totalement pur lorsqu'il demande ça. Et ce n'est même pas égoïste, parce qu'il ajoute « afin que le Père soit glorifié, afin que le Fils te glorifie, glorifie le Père. » C'est toujours dans le but que finalement, ça réjaillisse sur Dieu le Père qu'il soit glorifié. Jésus ne fait rien pour sa propre gloire unique, égoïste. Mais forcément, il doit être glorifié par la croix. Entre autres, la croix est glorieuse parce qu'elle sert à donner la vie éternelle à tous ceux que le Père a donné au Fils. Et avoir la vie éternelle, qu'est-ce que c'est? C'est de connaître Dieu, Jésus le dit. La vie éternelle, c'est de te connaître, Père Céleste. Ce n'est pas simplement d'obtenir la faculté de vivre éternellement, d'être immortel, puis autonome. On est placé sur une planète, puis on vit l'immortalité. En fait, la vie éternelle, c'est de connaître le Dieu qui est éternel et de pouvoir pour toujours être en sa compagnie avec lui. C'est de connaître Dieu. Donc, si Jésus accorde la vie éternelle, ce qui est immensément glorieux, c'est pour connaître Dieu, donc c'est pour la gloire de Dieu, pour que Dieu ait un peuple qui l'adore, qui le célèbre, qui soit son peuple et que lui soit leur Dieu. Donc, c'est pour la gloire du seul vrai Dieu. C'est un bon exemple de prière pour nous. C'est bon de se tourner vers Dieu avec nos requêtes, même d'abord, là, de présenter à Dieu nos requêtes. Qui de mieux connaît sa propre situation que lui-même? On sait la situation dans laquelle on se trouve. On connaît nos défis, nos peines, nos besoins. On les élève à Dieu. Nos sujets qui pourraient devenir des inquiétudes, on les présente à Dieu. Donc, on présente d'abord nos requêtes personnelles, mais en cherchant, si on suit le modèle de Jésus, en cherchant toujours à ce que ça soit selon la volonté de Dieu, à ce que Dieu soit glorifié. Donc, pour la gloire de Dieu. Si je demande à Dieu un travail, mais est-ce que ma recherche d'un emploi est vraiment pour glorifier Dieu? Est-ce que l'emploi que je désire va glorifier Dieu? Je cherche un conjoint, une conjointe, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que c'est selon les prescriptions de Jésus ou ça va le déshonorer? C'est pour ça que l'exemple de notre Père que Jésus nous a donné comme modèle de prière commence comme cela. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, on se place en élevant nos requêtes à Dieu dans un état où est-ce qu'on cherche à ce que Dieu soit glorifié. Et ça change tout. On présente nos requêtes et ensuite, on intercède pour nos frères et sœurs. Et l'une des requêtes, entre autres, c'est d'être en bon terme avec Dieu, d'être purifié, d'être pardonné. Ici, l'humilité de Jésus est stupéfiante, surtout parce en ce qu'il va déclarer ensuite. Sa situation, là, où est-ce qu'il va être glorifié, en réalité, on apprend ici, mais peut-être qu'on l'avait déjà appris ailleurs, mais ici, Jésus le dit clairement, qu'il va être élevé dans la gloire, mais ce n'est pas une nouvelle gloire. C'est de retourner dans la gloire où il était avant la fondation du monde. Avant la création, avant que l'univers existe, avant que tout être existe, les anges soient créés, Jésus, le Fils, était auprès du Père dans la gloire divine, la gloire éternelle. Donc Jésus est ni plus ni moins que Dieu, Dieu le Fils, qui s'est dépouillé de sa gloire pour venir sur terre. Donc quand on voit la condition humble qu'il avait, par contraste avec la gloire qu'il a accepté de se dépouiller, c'est incroyable. Aucun de nous aurait été prêt à se dépouiller de tout cela. Ça dépasse l'entendement. Donc, en venant sur terre, il s'est dépouillé de la gloire divine. Il était toujours Dieu sur terre, mais il n'avait plus cette splendeur. Il l'a mis de côté pour nous. Donc, le Créateur, maintenant, est prêt de retourner dans sa demeure, dans la gloire qu'il avait. Et même si il est prêt de retourner, il pense encore à ses disciples. Il va passer par des souffrances, par la mort, par un événement qui devrait occuper toute sa pensée, et pourtant, il va passer la plus grande partie de sa prière à prier pour ses disciples. À partir du verset 6, il prie pour ceux que le Père lui a donnés, pour ses disciples, qui sont précieux. S'ils sont précieux pour le Père et que le Père lui a confiés, ils sont précieux pour lui. On apprend qu'ils appartenaient déjà à Dieu lorsque Dieu lui a donné. Ils lui appartenaient et Dieu lui a confié pour qu'il en prenne soin pendant qu'il était sur la terre, qu'il révèle sa volonté et croit en lui, mais ils appartenaient déjà à Dieu par décret. Dieu l'avait décidé. Et s'ils appartenaient à Dieu, c'est parce que Dieu les avait arrachés du monde. Il les avait pris du monde. Sinon, ils auraient continué d'appartenir au monde du malin. Il les a arrachés du monde pour les donner à son Fils. Mais pas comme s'ils ne lui appartenaient plus. Ils lui appartiennent encore, même Jésus dit qu'ils t'appartiennent. Mais ils ont été confiés à Jésus. Et ce sont tous ceux, finalement, du point de vue humain, quand on lit les Évangiles, de qui il s'agit, ce sont tous ceux qui ont accepté la parole de Jésus, qui l'ont cru. Ce sont ceux que Dieu lui a donnés. Et sans exception, on peut croire que tous ceux que Dieu a donnés au nombre exact, hommes et femmes, plus jeunes et plus âgés, il a confié à Jésus, c'est le nombre exact de ceux qui ont cru. Ce sont les élus. Ils ont accepté la parole de l'Évangile et ils l'ont gardée. Ça peut être surprenant de voir que Jésus dit qu'ils l'ont gardée, qu'il les a préservés, qu'ils sont sauvés, en voyant comment leur compréhension est encore obscurcie. Là. Jésus même fait des reproches à ses disciples, il y a plein de choses qu'ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas encore accepté à ce point-ci que Jésus doit mourir et qu'il doit ressusciter. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que Jésus peut partir alors qu'il ne les verra plus. Ils ne pourront pas le suivre. Mais ce qu'ils ont saisi était l'essentiel. Jésus le résume dans ce qu'ils ont saisi, que Jésus est vraiment venu de Dieu. Il est l'envoyé de Dieu. Il est le Christ que Dieu a envoyé pour sauver. Donc, ils n'avaient pas encore tout compris, ce qu'ils devaient comprendre, mais ils vont comprendre plus tard lorsque le Saint-Esprit sera venu. Et on voit une grande transformation dans le livre des Actes. Mais ils ont cru que Jésus était celui qui était attendu. Donc, ce sont ceux que Dieu lui a donnés. Et les autres qui ont entendu le message et qui n'ont pas cru, ils appartiennent toujours au monde. Le monde dans le Nouveau Testament signifie souvent la sphère, le monde des ténèbres, le monde qui est en rébellion contre Dieu. L'ordre moral déchu, en rébellion. Et la majorité des gens appartiennent à ce monde-là. Et c'est un monde où Satan fait le plus beau temps, là. Il règne, il est le prince de ce monde. Donc, le royaume du mal. Et ici, Jésus spécifie, et c'est un bon enseignement pour nous, qu'il ne prie pas pour le monde. Ce n'est pas pour le monde que je prie. Je prie pour les disciples, ceux qui ont reçu la parole. Je pense aussi, je vous invite à considérer qu'on ne devrait pas prier pour le monde en soi. On devrait prier pour les gens qui se trouvent dans le monde. Pour les autorités, pour nos voisins, les membres de nos familles, pour toute personne, pour les milliards de personnes qui marchent sur cette planète, qu'ils soient sauvés du monde. Mais prier pour le succès du monde lui-même, c'est comme prier pour le royaume de Satan. C'est même un blasphème dans un sens. On est en train de prier pour l'ennemi, pour le succès de l'ennemi. Ce monde, Jésus le dit sans détour, et Dieu l'affirme dans le Nouveau Testament à plusieurs reprises, ce monde ne peut pas être sauvé. Les gens dans le monde peuvent être sauvés. Et ils seront sauvés en étant arrachés du monde, pour être transférés dans le royaume de lumière de Jésus. Mais le monde lui-même est voué à la destruction. Et à la fin des temps, il sera détruit, jeté dans le feu. Et Dieu va créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice va régner, où le mal ne régnera plus jamais, ne va même pas s'infiltrer. Donc, Jésus prie pour ses disciples. Et pourquoi il prie? C'est parce qu'il est sur le point de les quitter. Il les avertit à plusieurs reprises, je m'en aller. Mais c'est avantageux pour vous que je parte, même, il disait au dernier chapitre, parce que si je ne partais pas, le Saint-Esprit ne viendrait pas, mais le Saint-Esprit qui va venir, il va venir habiter en vous. C'est même avantageux. Et on voit justement l'avantage lorsque les disciples reçoivent l'Esprit, ils sont complètement transformés de lâches et traîtres, ils deviennent courageux et fidèles jusqu'à la mort. Donc, il prie pour ses disciples parce qu'il doit bientôt partir. Il les remet dans les mains du Père. Et ici, Jésus l'appelle Père Saint. Garde-les. Le Père Saint. S'il y a un être qui est saint, c'est Dieu. En fait, fondamentalement, c'est le seul qui est saint. Mais on peut être saint lorsqu'on est consacré à Dieu. Et justement, ici, Jésus parle de la mission. Que comme il a été envoyé, il envoie ses disciples. Donc, comme il a été envoyé et qu'il s'est consacré, Jésus dit que même qu'il se sanctifie lui-même, il se sanctifie lui-même, consacré à cette mission, à cette œuvre, à servir Dieu. Il prie pour que Dieu sanctifie ses disciples, donc qu'ils soient consacrés à l'œuvre. Qu'ils soient consacrés à servir Dieu. Bien sûr, servir Dieu, on ne peut pas le faire en vivant dans le péché. Donc, être sanctifié, vient du mot saint, ça veut pas seulement dire d'être consacré, mais ça veut dire d'être séparé du péché, séparé du monde, cesser de vivre dans le péché. Donc, Jésus demande que Dieu fasse en sorte qu'il reste fidèle. Ils vont faire face à de nombreuses tentations dans le monde et à de nombreuses épreuves. Et chaque épreuve est une tentation. Une tentation d'utiliser le péché ou des moyens humains contre la volonté de Dieu pour s'en sortir. Donc, Jésus sait ce qui les attend, la persécution, la haine, les attaques, les plaisirs du monde aussi qui pourraient les endormir. Et donc, Jésus demande que le Père les garde fidèles. Jésus, lorsqu'il marchait sur la terre, il a gardé tous les élus, aucun n'est tombé. Mais ici, il souligne, un seul est tombé, c'est Judas l'Iscariote. Mais le texte le mentionne ici clairement que ce n'était pas parce que tout à coup Dieu avait perdu le contrôle, c'était prévu dans le plan de Dieu. Il était fils de la perdition, c'était sa destinée de trahir Jésus. En fait, il n'avait jamais été ôté du monde, il a continué d'appartenir au monde. Donc, il marchait avec Jésus, mais en hypocrite, il était fils de perdition, destiné à trahir Jésus tel qu'annoncé dans l'Ancien Testament. Il y a plusieurs indices qui annoncent là dans les psaumes, entre autres, qui montrent que le serviteur va être trahi, le Christ est trahi, le Messie. pour montrer que c'est le plan de Dieu. C'est intéressant ici de voir qu'il est le fils de perdition. Cette expression-là est utilisée aussi pour parler de l'Antichrist qui doit venir. L'Antichrist qui est annoncé dans 2 Thessaloniciens 2. L'Antichrist, on peut dire avec un A majuscule, là, qui va marquer les grandes guerres, la grande persécution finale avant le retour de Jésus. Mais cet Antichrist-là est appelé fils de perdition et c'est le même terme qui est donné, le même titre qui est donné à Judas. On peut comprendre que Judas, en réalité, est le premier à s'être opposé comme ça, d'une opposition spirituelle à Jésus. Il est le premier Antichrist d'une série d'Antichrists. Je suis sûr que vous et moi, on pourra en nommer plusieurs, qui ont combattu l'Église, qui ont souhaité sa destruction, ont eu de la haine pour Jésus et pour les chrétiens, de la haine pour Dieu. Et on peut s'attendre à ce que ça se reproduise. Mais c'est dans le plan de Dieu. Donc Dieu ne perd pas le contrôle lorsqu'il y a tout à coup une opposition, une persécution contre les chrétiens. Ça fait partie de son plan. Mais à travers cela, il s'engage, il promet, parce qu'on peut concevoir la prière de Jésus comme une promesse de Dieu. Parce que Jésus prie selon la volonté de Dieu. Donc Dieu promet qu'il va nous garder dans la sainteté. Il va nous sanctifier. Donc ses élus, comme Jésus a gardé ses disciples, il n'en a perdu aucun, Dieu nous garde jusqu'à la fin par son Saint-Esprit qu'il met en nous. Ça ne nous décharge pas de la responsabilité de persévérer jusqu'à la fin, mais grâce à l'action de Dieu, on va persévérer jusqu'à la fin, si on lui appartient. C'est un soulagement et ça peut enlever la crainte qu'on aurait un jour de défaillir. Donc, même si le monde est contre les disciples de Jésus, Jésus ne demande pas au Père qu'il les enlève du monde. Il aurait pu souhaiter cela pour que ses disciples ne soient plus attaqués ou à risque de tomber. Il aurait pu demander au Père, « Mais retire-les, là. Mets-les sur une île déserte ou retire-les tout de suite auprès de toi. Ils ne soient plus tentés. » Mais c'est pas ce qu'il dit. Il ne demande pas au Père que les disciples soient ôtés du monde, mais qu'ils soient protégés, qu'ils soient gardés du malin, du diable, de Satan, qu'ils soient fortifiés. Et c'est grâce à cette prière-là que les disciples vont pouvoir accomplir leur mission d'évangélisation dans le monde en connaissant une grande persécution. Mais ils vont persévérer sans tomber dans l'apostasie. Ils ne vont pas renier leur maître. Ils vont rester fidèles à la parole de Jésus jusqu'à en mourir. Je crois, suivant cette observation de la prière de Jésus, on ne devrait pas nous-mêmes chercher non plus à nous retirer du monde. Ça peut être une tentation, peut-être, pas une tentation, mais un effort légitime, là, on pense, de se retirer pour se protéger, avoir moins de tentations. C'est beaucoup plus facile de ne pas fréquenter de non-croyants. Certains groupes chrétiens ont voulu se retirer dans des communes, dans la campagne ou dans les forêts. Ou même des hommes ont dit « c'est trop de tentation de côtoyer des gens, je vais devenir un ermite tout seul dans la forêt. » Plus de danger d'être en chicane avec personne. Plus de danger de pécher contre quiconque, je vais être tout seul. Mais on peut continuer à pécher même quand on est tout seul. Mais Jésus, si on se fie à la volonté de Jésus ici, qu'il exprime, qui est la volonté de Dieu, il ne prie pas pour qu'on soit ôté du monde. Qu'on reste dans le monde, mais qu'on soit gardé, protégé. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Et ça, c'est la volonté de Dieu pour le reste de notre vie, qu'on soit dans le monde. On est censé être une lumière qui éclaire les ténèbres. Comment on peut éclairer si on n'est plus là? Ou si on se cache sous le boisseau, comme dit Jésus? Et c'est une éducation aussi sur la manière de protéger nos enfants. Ça peut sembler légitime de vouloir protéger nos enfants en les préservant de toute tentation ou mauvaise influence du monde. Mais il faut faire attention. On devrait plutôt agir comme Jésus le recommande, c'est de les fortifier, de les enseigner dans la vérité, de les préparer à affronter ce monde-là avec force et demander à Dieu sa protection, même à tous les jours, de prier pour nos enfants. Et on protège nos frères et sœurs, on protège les nouveaux croyants aussi qui sont comme des bébés spirituels, non pas en les retirant. Ils vont continuer d'être exposés aux mensonges dans le monde, aux tentations, mais on prie pour eux et on leur enseigne la parole. C'est la parole qui nous sanctifie, qui nous garde fidèles. Spécifiquement, Jésus demande à Dieu de garder ses disciples dans deux objectifs. Bien, comme on l'a vu, pour qu'ils persévèrent, mais il y a deux effets positifs à cela. S'ils restent fidèles, ils vont être unis dans une même cause. Et ils vont connaître la joie d'être un. Jésus, même à la veille d'être martyrisé, de mourir au bout de ses souffrances, au bout de son sang, il demeure dans la joie, parce qu'il sait que son Père l'aime, il aime le Père, ils sont unis. Il n'est pas seul. Même lorsque tous ses disciples vont l'abandonner, il dit « Je ne serai pas seul, le Père est avec moi. » Donc, la joie d'être un, d'être unis, mais Jésus demande à Dieu, le Père, de nous sanctifier pour cela, pour qu'on soit un, pour qu'on soit unis. Et aussi pour qu'on soit saints, consacrés au service de Dieu, qui est une grande joie, qui est une gloire même. Et tout cela s'est rendu possible parce que Jésus lui-même est sur le point de se sacrifier à la croix. Donc, c'est touchant de penser que Jésus a pris pour ses disciples qui sont présents. Et Jean s'en est souvenu, c'est pour ça qu'il nous a récité sa prière. Le Saint-Esprit lui a rappelé à la mémoire. On peut s'imaginer la scène là, que Jésus est là, il prie son Père, ses disciples entendent ça, « Wow, il prie pour nous. » Mais ce qui est encore plus touchant pour moi, peut-être pour vous aussi, c'est qu'il pensait aussi à nous. Il nous connaissait à l'avance. Il savait qu'en 2026, on serait en train d'étudier sa parole. Il savait qui allait être ses disciples et il a prié pour nous avant de mourir. Donc, quand il est allé à la croix et qu'il a accepté de porter les péchés sur ses épaules, de porter le poids de la culpabilité et de payer les péchés des croyants, il savait qu'il portait nos péchés aussi. Vos péchés à vous et moi sur ses épaules. Il est mort volontairement pour nous. Et avant cela, il a pris le temps de prier pour tous ceux qui allaient croire dans la parole des disciples. Donc, il a confié cette parole-là à ses disciples et à tous ceux qui l'ont côtoyé pour qu'ils la propagent. Et eux allaient croire et allaient en parler à d'autres aussi. Et Jésus a prié pour chacun d'eux. Il prie pour tous les chrétiens qui croient en lui par la révélation de la Bible. Donc, cette parole-là qu'il a transmise à ses disciples, elle a été rédigée, elle a été confinée dans une écriture, dans le canon de la Bible, et grâce à elle, on peut connaître Jésus et croire en lui. Et Jésus, comme il a prié pour ses disciples, il prie pour que nous soyons unis. Il prie pour notre unité. Il sait que ça contribue à notre bonheur et ça glorifie Dieu. Et qu'est-ce qui nous unit? Ben, peut-être qu'on aime chanter le dimanche matin, on aime étudier la Bible, mais ce qui nous unit, c'est la foi en Christ. Et ce qui nous a procuré le Saint-Esprit qui nous unit, mais à la base, nous avons une foi commune, une confession de foi commune. Nous croyons au salut par la foi en Jésus seul. Éphésiens 4:4-5 dit, « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance. » Nous espérons à une chose commune, celle de votre vocation. « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. » On ne se fait pas baptiser pour un prophète ou pour une idole, pour un chanteur, pour une personnalité publique. On se fait baptiser, on s'engage pour Jésus seul. Et on a tous ça en commun. Donc, c'est la base de notre unité, mais ici, Jésus prie aussi pour qu'on soit parfaitement unis. Donc, le Saint-Esprit qui va venir en nous, et on peut être sûr que Dieu a répondu positivement à la requête de Jésus. Donc, le Saint-Esprit a été envoyé en nous justement pour nous transformer, pour nous rendre de plus en plus semblables à Jésus, de plus en plus unis, dans l'unité. Et c'est une chose très importante pour le Seigneur, que nous soyons unis. Et un effet positif, c'est que notre unité brille. Quand on dit qu'on éclaire le monde, là, une chose qui éclaire le monde, c'est cela, c'est notre unité. Jésus en parlait dans les chapitres précédents en disant notre amour, l'amour qu'on a les uns pour les autres, va convaincre le monde que nous sommes vraiment des chrétiens. C'est la marque d'un vrai chrétien, que l'on peut s'aimer, se pardonner. Mais notre unité, qu'on fait un bloc, on est ensemble, Ça va convaincre non seulement le monde qu'on est vraiment des chrétiens, mais ça va convaincre que Jésus a vraiment été envoyé du Père. Ça va contribuer à convaincre des gens que Jésus est vraiment le messager, vraiment le sauveur. Donc, ça a un effet pour sauver même des âmes sur la terre. Donc, c'est d'une importance capitale. Ensuite, ce que Dieu promet pour tous les croyants par la prière de Jésus, c'est tellement grand que ça dépasse même notre compréhension. Et on peut méditer là-dessus jusqu'à notre mort, puis je ne suis pas sûr qu'on va avoir épuisé. Donc, Dieu nous promet d'être un, mais un en Dieu. Comme Jésus, le Fils, est un avec le Père, Dieu promet qu'en nous transformant, en nous sanctifiant, nous devenons un avec lui. Un avec le Créateur. Nous, une petite créature microscopique, on peut être unis avec Dieu. Et on est tellement unis à Dieu, même, c'est pas seulement pour le futur, là, c'est même présentement. On est en Christ, en Dieu le Père. Notre unité se voit sur la terre et ça devient même le contexte où Dieu travaille sur terre. L'Église devient le contexte de l'œuvre de Dieu sur la terre à cause de notre unité ensemble et avec Dieu. Et en plus, Dieu promet que nous recevons la gloire, celle qui a été donnée à Jésus. Donc Jésus a reçu la gloire de la mission qui lui a été confiée, et c'est la révélation. Dieu lui a confié le message le plus glorieux qui soit, et Jésus a été le porteur de cela, cette gloire-là. Souvent dans l'Ancien Testament, la gloire de Dieu, ça va de pair avec la révélation de Dieu, de qui il est. Quand on veut voir la gloire de Dieu, c'est qu'on veut voir un aperçu de qui il est. Mais Jésus, c'est la gloire de Dieu en personne qui est venue sur terre. Là. Il est la révélation de Dieu. Mais cette gloire-là nous est transmise, elle nous est confiée. On a entre les mains le message le plus glorieux qui soit. Même si certains osent blasphémer en disant que c'est un texte haineux, discriminatoire, une invention des hommes, c'est la parole de Dieu, du Créateur, là, qui nous parle directement. Là. On a le privilège d'avoir ça entre les mains. Donc, c'est une gloire inouïe qui nous est confiée. En plus, Dieu promet, en réponse à la prière de Jésus, que nous sommes les bénéficiaires de l'amour de Dieu. Non seulement Dieu accepte qu'on soit dans sa présence unis à lui, mais en plus, il nous aime. Comme il aime le Fils. Wow! Pas comme on aime un chien ou comme on aime la couleur bleue ou qu'on aime un type de voiture. Il nous aime, Dieu, comme il aime son Fils. Lorsque nous sommes adoptés dans sa famille, nous devenons ses enfants, là, c'est le Tout-Puissant, le Créateur du monde, là, qui nous aime. En tout cas, ça nous dépasse. L'amour de Dieu, on ne peut pas le mesurer. C'est infini. Mais quelle est la meilleure raison pour que des gens se convertissent au Seigneur? C'est ça. Et est-ce qu'il existe une meilleure raison que celle-là? Quand on saisit là, que Dieu, le Créateur, alors que nous sommes pécheurs, ennemis contre lui, il nous offre d'être en bon terme réconcilié avec lui, être bénéficiaire de son amour. Wow, il n'y a rien de plus beau, là. Ça vaut plus que de gagner à l'Auto-Québec. Ça vaut plus que tout. Mais malheureusement, beaucoup le rejettent. Une autre chose que Dieu nous promet, c'est que nous serons un jour dans sa présence, dans la présence même de Dieu, dans la présence de Jésus. Jésus prie pour que là où il soit, là où il est, que nous soyons avec lui. Et il a promis au chapitre 14 qu'il va revenir nous chercher. Donc, c'est sûr qu'on va être avec lui pour l'éternité dans la maison du Père pour contempler quoi? Contempler sa gloire. Jésus est venu dans une condition très humble sur terre. Et même dans sa condition humble, c'était déjà une gloire impressionnante. Tous ceux qui l'ont côtoyé en ont été stupéfaits. Mais c'est un pâle reflet, là. Un jour, on pourra contempler la splendeur de sa divinité. Une splendeur éclatante, et on va le voir de nos propres yeux, on va le toucher. Enfin, ce qu'il promet, et là, il est appelé ici le Père juste. Donc, il a été appelé Père saint, maintenant il est appelé Père juste. Il promet que nous serons en relation intime parce que nous connaîtrons son nom. Donc, une relation avec lui une relation personnelle. Mais c'est d'autant plus précieux quand on considère que Dieu est juste. Et normalement, on ne devrait pas être en relation avec lui. On devrait être condamné et jeté en enfer. Parce que Dieu est juste et il condamne le monde, il condamne Satan, il condamne tous les incroyants, tous les pécheurs. Mais nous étions de ce nombre. Donc, Dieu, dans sa justice, a décidé d'intervenir pour nous rendre justes, pour que nous puissions être dans sa présence. Il ne fait pas juste être miséricordieux et balayer sous le tapis nos fautes. Il les paye pour que notre dette soit payée, que notre nom soit inscrit dans le livre de vie, pour qu'à la fin des temps, lorsque le livre de notre vie, chacun de nous sera ouvert, nos œuvres ne seront pas toutes bonnes. Et chacun sera jugé selon ses œuvres. Et on serait mal pris si ce n'était que de cela. Mais heureusement, il existe un autre livre qui est le livre de vie. Et nos noms sont inscrits dedans. Et c'est le Dieu juste, le Père juste, là, qui a fait cela. Qui fait en sorte que sa justice est satisfaite et qu'il nous justifie. Tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus sont épargnés du jugement. C'est une pure grâce. Donc, je vous invite, si vous n'êtes pas sûr d'avoir obtenu ce pardon-là de Dieu, cette grâce, si vous n'êtes pas sûr que vos péchés sont pardonnés, mais croyez dans le sacrifice de Jésus. C'est ça le paiement. C'est le seul paiement autorisé. Il n'y a pas de carte de crédit qui peut faire l'affaire. Il n'y a pas d'œuvres qui peuvent compenser les mauvaises. Le seul paiement, c'est le sang de Jésus à la croix. Mettez votre confiance dans le sacrifice de Jésus seul et vous pourrez être confiant, vous pourrez être assuré que vous ne serez pas condamné en enfer pour vos péchés. Parce que vos péchés sont déjà payés. Donc, Jésus a prié pour lui-même, pour être glorifié, ce qui est tout à la gloire de Dieu. Et il a prié pour ses disciples, pour que Dieu les garde en son absence. Il a prié pour tous ceux qui allaient croire en lui, pour vous et moi, pour notre vie éternelle, dans la présence glorieuse de Dieu. En faisant cela, on voit que toutes les grandes prières que l'on trouve dans l'Ancien Testament étaient comme des prières précurseurs de cette prière-là du Seigneur Jésus. Et elles trouvent leur accomplissement final en Jésus. Autant les prières des prophètes que des rois d'Israël que des sacrificateurs. Même ces trois offices-là étaient les précurseurs de Christ. Et j'aimerais qu'on regarde trois exemples. Si vous voulez tourner dans Exode 33, un premier exemple, c'est la prière d'un prophète, la prière de Moïse. Exode chapitre 33. Moïse, en cela, était précurseur de Jésus. Et il a prié d'abord pour lui, mais ce n'était pas d'une manière égoïste, c'est parce qu'il voulait voir la gloire de Dieu, c'était pour célébrer Dieu. Puis il a prié pour le peuple, dans cet ordre. Exode 33, verset 12. Moïse dit à l'Éternel, « Vois, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. » Cependant, tu as dit, « Je te connais par ton nom. » Wow, Dieu a dit ça à Moïse. « Et même, tu as obtenu ma faveur. Maintenant, si j'ai obtenu ta faveur, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai. J'obtiendrai ainsi ta faveur. Vois, cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi. Je te donnerai du repos. » Donc, il répond à la prière de Moïse. Et Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, » il prie pour le peuple, « ne nous fais pas monter d'ici. À quoi donc reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas au fait que tu marcheras avec nous, que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? » Et l'Éternel dit à Moïse, « J'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma faveur. » Et je te connais par ton nom. On a l'exemple d'une prière aussi du roi Salomon. Vous voulez tourner dans 1 roi 8. Où il prie d'abord pour lui-même, puis pour le peuple, et même pour ceux qui vont croire des autres nations dans le futur. C'est impressionnant. Donc, 1 roi 8, à partir du verset 22. 1 Roi 8:22. Salomon se tint devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit les mains vers le ciel et il dit, « Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur terre. Tu gardes l'alliance et la bienveillance envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as observé à l'égard de ton serviteur, mon père David, ce que tu lui avais dit, et ce que tu as dit de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta main. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe à l'égard de ton serviteur, mon père David, ce que tu avais dit. Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. Maintenant, Dieu d'Israël, qu'elle se confirme donc la parole que tu as dite à ton serviteur, mon père David. » Okay. Il prie pour lui que ce que Dieu a déjà décidé s'accomplisse. Ensuite, verset 33. « Quand ton peuple d'Israël sera battu devant l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et célèbrent ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, c'est toi qui écouteras des cieux. Tu pardonneras le péché de ton peuple, Israël. » Donc, il prie pour ses contemporains, pour le peuple. Et verset 41. « De même pour l'étranger, qui lui n'est pas de ton peuple d'Israël, quand il viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, c'est toi qui écouteras des cieux, du lieu où tu sièges, et tu accorderas tout ce que l'étranger aura imploré de toi, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et qu'ils reconnaissent que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. » Donc, le roi qui prie pour le peuple, et même pour les futurs croyants en l'Éternel. Et un troisième parallèle, c'est le souverain sacrificateur, Aaron, qui devait d'abord intercéder pour le peuple et demander le pardon à Dieu. Comment il le faisait? Il devait d'abord intercéder Dieu pour lui, demander la faveur de Dieu sur lui. Et comme Aaron, contrairement à Jésus, il n'était pas pur, puisqu'aucun homme n'est sans péché, il devait demander le pardon pour lui, faire l'expiation pour son propre péché. On lit dans Lévitique 16, « Aaron offrira un taureau pour son péché et fera l'expiation pour lui et pour sa famille. » Et plus loin, verset 15, « Il égorgera le bouc pour le péché du peuple. Il emportera le sang au-delà du voile, et il fera avec ce sang, comme il a fait avec le sang des taureaux, il en fera l'aspersion sur le propitiatoire, devant le propitiatoire. » Donc, il a intercédé pour lui, puis pour tout le peuple, le souverain sacrificateur. C'est sûr que notre souverain sacrificateur Jésus est de loin supérieur. Comme dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, il n'a pas besoin de se purifier. Il est déjà pur. Et le sacrifice qu'il a offert est de loin supérieur à un bouc. C'est lui-même qui s'est offert en sacrifice. Et ce sacrifice-là a une valeur infinie et finale. Mais ici, on voit dans cette prière, dans Jean 17, qu'il intercède pour son peuple à la manière d'un sacrificateur. Et il continue de le faire. Il prie pour nous. Donc, en conclusion, Jésus a accepté de se dépouiller de sa gloire divine pour venir sur la terre humblement, en tant que prophète pour révéler Dieu, en tant que sacrificateur pour s'offrir lui-même en sacrifice, et en tant que roi de l'univers pour être établi à la droite de Dieu, pour régner sur le peuple. Et Philippiens 2 le résume bien. Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a enlevé son manteau de gloire en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Sachant cela, ce que Paul insiste juste avant dans Philippiens 2, puisqu'on sait cela, là, que Jésus s'est humilié, il a été obéissant, pour remonter ensuite pour régner, mais veillons sur l'unité. Parce que c'est cette unité-là, fraternelle, qui glorifie Dieu. C'est le seul peuple que Dieu veut avoir. Là. Donc, il faut que son peuple soit uni. Il dit, ayez une même pensée, un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, par orgueil. Mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Amen.